Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h01 sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est parti pour une magnifique émission ce jeudi soir, comme d'habitude, pendant 2 heures. On va refaire le monde du foot, on va refaire le football. Et les codes du football, nous, on n'en a pas. Ici, on dit tout avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah, Benoît.
Ravi de te retrouver.
Ah,
et ravi de l'équipe qu'on présente aujourd'hui.
Ah, ouais.
Parfois, on est un peu moins fiers, mais ce soir, on est très fiers.
On est fiers de présenter notre dinosaure. Il est là, il s'accroche, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir à toutes et à tous. Salut les artistes.
Salut Jean-Mi.
Bon, Jean-Mi, on est bien accompagné.
Oui.
On a un retour. Il s'était perdu là.
C'est le retour.
Il a fait le tour de la
Corse.
Il est de retour. Je pense qu'il a fait le tour du monde surtout. C'est Tony Vérel. Salut Tony.
Salut les amis.
Salut Tony.
Alors, ça va, vous allez bien,
Tony?
Ça va? Je crois que j'ai fait le GR20 finalement.
Ouais, ça a mis du temps.
C'est pas la
ça a mis un peu
c'est
de temps.
Ça. Ouais. Bon. Mais on est bien ici, on est bien. Écoute, les gens sont cool, franchement.
Écoute, c'est bien. Et ben, profites-en parce qu'en plus de ça, l'émission pour toi, t'imagines, lance premier du championnat. Qui eut cru.
C'est pas beau,
et
ça.
Voilà.
C'est pas beau.
Et d'ailleurs, on va réunir des amis à 18h45 à l'Ogérôme. Guillaume Varmuze sera avec nous, autre légende du RC Lens. Deux champions de France 98, Tony Vérel, Guillaume Varmuze. Est-ce qu'il faut y croire cette année? Est-ce que c'est la saison du RC Lens? On parlera de ce sujet avec Guillaume et avec Tony. Le direct, alors, c'était donc le tour de l'Algarve, la deuxième étape. Est-ce que la victoire de Paul Sexas est confirmée, Kevin Morand?
Elle est confirmée, la victoire pour le Français de 19 ans, première victoire en professionnel. Il a dépassé dans les tout derniers mètres de cette deuxième étape du Tour de l'Algarve Juan Ayuso, l'Espagnol de Lidl Trek. Première victoire donc pour Paul Sexas en professionnel pour son deuxième jour de course de sa deuxième saison.
C'est beau. Merci Kevin, un boyau.
La belle victoire de Paul Sexas, on est ravis. À 18h30, messieurs, on fera le procès d'Olivier Giroud qui va être accusé de faire l'année de trop. Il est en difficulté, Olivier Giroud, depuis quelques semaines, comme son club du LOSC, qui joue ce soir face à l'Étoile Rouge de Belgrade en 16e allée de Ligue Europa. Et puis à 19h, on parlera de l'Olympique lyonnais. Jusqu'où ira l'OL? C'est la question qu'on posera, supporters lyonnais. On vous attend au 32-16. Mais tout de suite, reparlons de l'OM, Jérôme, parce que c'est l'heure du bilan pour Pablo Longoria.
Si j'analyse globalement la situation, je crois que c'est une situation pour être content, pour être fier.
J'ai presque envie de lui dire, sur ces dernières années, il faut voir à quel niveau vous les avez dépendés comme ça. Quoi.
Ici à Marseille, depuis que je suis arrivé, il y a un niveau de vouloir se mêler des affaires que ça n'appartient pas aux gens.
Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça s'appelle une maladie. Je vais éradiquer la maladie. Une telle agressivité, c'est quelque chose d'inouï.
Viens là.
C'est jamais là, c'est
quand
vous.
Mais de quoi tu me parles? Viens ici.
Quel est l'objectif futur du club? Moi, le plus important de faire, c'est agrandir le club, stabiliser le club.
Arrêtez de prendre des lumières pour des lanternes.
Après 5 années de présidence, Pablo Longoria a été écarté de ses fonctions cette semaine. Décision prise par l'actionnaire Franck McCourt. Mehdi Benassia hérite de tout le volet sportif. Un nouveau président sera élu prochainement, sera désigné plutôt par Franck McCourt. C'est Benatia qui a choisi le nouveau coach Habib Bey qui a été présenté aujourd'hui à Marseille. Longoria, lui, n'accepte pas d'être relégué à un rôle institutionnel. Il devrait entamer des discussions pour mettre fin à ses fonctions. Il a 39 ans, il est arrivé en 2020 à Marseille, d'abord en tant que directeur général du foot, puis en tant que président depuis 2021. Un passage marqué par quelques coups retentissants, on en parlera. Et puis surtout par ce mot-clé, l'instabilité au sein de l'effectif et dans les bureaux. Valentin Jamin nous rejoint. Salut Valentin.
Bonjour messieurs, bonsoir à tous.
Mission délicate, tu vas nous dresser le bilan de Pablo Longoria à Marseille.
En 5 ans et demi, déjà le bilan sportif. Il n'a gagné aucun titre avec l'Olympique de Marseille en championnat. Il y a 3 podiums, dont une 2e place. Pas de finale de Coupe de France, ça c'est un échec quand même du mandat de Longoria. En Coupe d'Europe, il y a eu 3 participations en Ligue des Champions. Jamais Marseille, en revanche, n'est sorti des poules. Et 2 demi-finales en Coupe d'Europe, 1 en Europa League et 1 en Conference League. Sportivement, on peut quand même dire aussi qu'ils se sont rapprochés du du Paris Saint-Germain, en tout cas ces dernières années. Hors terrain, maintenant, Longoria, il est vite passé président, donc tu l'as dit Benoît, il a dirigé 7 entraîneurs, il a connu 7 entraîneurs différents, et je compte pas les intérims. Il y a également toujours eu des mercato frénétiques. On compte grosso modo autour de 160 mouvements de joueurs sous son mandat, avec quelques réussites sportives, hein, Greenwood, Alexis Sanchez, Balerdi Rabiot, Saliba par exemple. Il y a aussi des joueurs oubliés. Si je vous dis voilà Vitinha, Jean Onana, Conrad de la Fuente, ça c'est pas des réussites. Ces dernières années, il a quand même réussi à rééquilibrer avec l'aide de Mehdi Benatia un petit peu les comptes. Et puis il y a eu quelques déclashocs aussi. Il avait souhaité, rappelez-vous, réorganiser, mieux maîtriser la commanderie pour, je cite, éradiquer la maladie, puisqu'il trouvait certains salariés trop intrusifs. Beaucoup de directeurs dans l'administration ont été essorés, licenciés, sont partis sous Longoria, qui était impliqué dans les instances aussi pour représenter l'OM ces dernières années, mais qui a fini marqué par sa longue suspension avec de graves accusations contre l'arbitrage, notamment à Auxerre la saison dernière, où il avait hurlé à la corruption.
Merci Valentin. La une de Rotten sans flamme, comment jugez-vous le bilan de Pablo Longoria à l'OM? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, comment tu le juges alors?
Largement insuffisant dans tous les cas, mais en fait il y a plusieurs points où on doit juger Pablo Longoria. Déjà, Valentin le rappelait, sportivement c'est loin d'être une réussite. Pas de titre gagné, des campagnes de Ligue des Champions, et la dernière en date laisse vraiment à désirer, et ça a souvent fait scandale par la suite, et ça a valu souvent des changements d'entraîneur aussi. Donc ça veut dire que cette instabilité en termes de résultats, tu l'as ressenti en termes de, d'effectifs et en termes d'entraîneur. Comment tu peux dire que le bilan de Pablo, il est bon, que ça soit en tant que directeur sportif ou président? Quand t'as changé, t'as connu 7 entraîneurs en 5 ans et demi. Donc ça, c'est pas possible. Et encore, je parle même pas de l'intérimaire, intérimaire de Nasser Larguet et Abardonado. Donc, ce que je veux dire, tu peux pas y arriver. Mais moi, ça me renvoie à une époque que j'ai connue au Paris Saint-Germain, où en l'espace de 6 ans, j'avais connu 5 présidents et 6 entraîneurs. Donc c'est sûr que quand t'es joueur, tu peux pas y arriver avec cette instabilité-là déjà dans l'équipe dirigeante. Et c'est bien là en fait que moi je reproche, le plus gros reproche que j'ai à faire à Pablo, c'est ça. C'est pourquoi être aussi instable? Assumez vos choix. Ce que je veux dire, tu peux te tromper sur un entraîneur, tu peux te tromper sur un deuxième entraîneur, te tromper sur 7 entraîneurs, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc déjà, c'est la preuve.
Après certains sont partis, certains ont été poussés dehors, il y a des cas différents.
Oui, non, mais il y a des cas différents, c'est pour ça. Donc, mais quand même, en 5 ans et demi, 7 entraîneurs, c'est beaucoup trop, et c'est complètement instable, et tu peux pas construire. Et puis à côté de ça, il y a le nombre de mouvements, 160 mouvements. Ouais. Non, mais vous imaginez, 160 mouvements. Non, mais on en rigole. Mais franchement,
on n'arriverait même pas tous à les citer.
Les finances, j'espère que les finances de Pablo, elles ont bien tourné, parce que sur 160, et du directeur sportif de l'époque et du directeur sportif d'aujourd'hui, parce que pourquoi on a émis beaucoup de critiques, et j'ai émis beaucoup de critiques sur les méthodes de Mehdi Benatia aussi, c'est parce que cette instabilité chronique qu'il y a dans ce club, c'est voué à l'échec, et ça a toujours, toute génération, et arrêtez de me dire que le football il a évolué, il a changé, le football c'est toujours le même, d'accord, on joue à 11 contre 11, le terrain il est à la même distance pendant 90-95 minutes. À l'époque de Jean-Michel, c'était le cas. À mon époque, c'était le cas. Sud Tony, pareil, mais c'était à peu près la même que la mienne. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et quand on était dans un vestiaire pour tirer le max d'un club qui a des ambitions très élevées comme l'Olympique de Marseille et des moyens aussi importants, parce qu'ils ont quand même des moyens importants, la meilleure des choses, c'est déjà d'être stable à l'équipe dirigeante et dans le vestiaire. D'accord. Donc quand tu fais, qu'on m'explique comme ils veulent, que oui, mais ils sont obligés financièrement, ceci, cela et tout, ok, mais dans ces cas-là, arrêtez de nous vendre que vous avez des objectifs élevés, parce que tu sais que ça peut pas, l'un va avec l'autre, et l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc à l'arrivée, c'est un échec total de ce côté-là. Et là, moi, je finis là-dessus, parce que je vais être sinon très long, et on peut en parler pendant des heures avec Pablo Longoria. L'autre reproche que j'ai à lui faire, où je trouve que c'est largement insuffisant pour un dirigeant et un président d'un grand club comme l'Olympique de Marseille, et qu'il a été, c'est la communication. La communication, comment tu peux vendre du rêve autant aux supporters après des bons résultats? Et ça a continué cette année. Les contradictions de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, c'est terrible. Les à l'arrivée, je pense même qu'il y a beaucoup de mensonges. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que moi, j'aime bien les gens face à moi et face à nous. Dans le football, il y en a pas beaucoup et j'en ai parlé hier de ces fameux faux culs. J'aime bien les mecs qui disent les choses franco. Tu t'es trompé, tu l'assumes. Ok, et c'est pas pour autant qu'on doit te couper la tête. Lui, le problème, c'est que t'as toujours une petite porte de sortie. Oui, mais c'est normal et c'est la faute à un tel. Tu rejettes la faute à là. Et là, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et demi et l'arrivée de De Zerbi, c'est que ce trio, on m'a expliqué que ce trio, il était fusionnel, ils étaient ensemble et que quand il y en aura un qui partira,
c'est peut-être le cas à un moment.
Et quand il y en aura un qui partira, et ben les autres suivront.
Vous l'avez cru.
Et moi j'ai cru parce qu'on me l'a dit, Jean-Michel. Oui. On me l'a dit au téléphone comme ça, on me l'a expliqué. Alors bêtement, je les ai cru. Et ben à l'arrivée, regarde ce qui se passe. De Zerbi, il est parti. Ah bah si, parce que je suis vraiment trop.
Je suis vraiment trop con.
Mais non, mais qui te dit que quand on te l'a dit, les gens n'étaient pas convaincus?
Oui, ils sont tellement convaincus.
C'est l'effet de saison aussi qui font qu'il y a des tensions.
Après, il faut pas oublier qu'il est arrivé dans une période où voilà, il a repris le club. Le club était quand même bien mal. Après,
c'était Jacques Henri Hérault qui voulait mettre des buts contre double en dehors de la surface.
Et je vous donne la parole et je finis là-dessus. Moi, il n'y a pas de problème de prendre le club dans un état, et c'est pour ça qu'il est arrivé, qui était catastrophique. Il a réglé. C'est pour ça que je dis que c'est largement insuffisant et c'est même décevant. Moi, personnellement, ma relation, elle est décevante avec lui et avec eux, mais il n'y a pas de souci. Après, tu sais, juste factuel,
oui,
en effet,
on juge objectivement
5 ans
passage.
Et demi, 7 entraîneurs avec aussi peu de résultats, c'est un échec.
Bon, vas-y Jean-Mi.
Mais il l'a pris dans un état catastrophique, j'en conviens, mais il le laisse dans quel état?
Oui.
Mais il le laisse dans quel état?
C'est pas si cata, Jean-Michel, l'état de l'OM quand même.
L'état de l'OM. Moi, j'aime bien.
Bah, la situation est catastrophique pour vous.
Mais attends. Benoît.
En termes de résultats,
je veux
oui.
bien. Je veux bien. En termes de résultats, que je sache, ils n'ont rien gagné.
Rien.
On est d'accord.
On est bien d'accord.
Oui.
Bon. Et là, en termes de mouvement, vous parlez des 160 joueurs. Mais le président délégué, c'est-à-dire le président salarié, et je pense qu'il ne prenait pas une petite pincée de sel à la fin du mois, ça c'est le problème de ma courte. Mais le président salarié, il s'occupe aussi du cap que va avoir son club. Sur le plan, j'aimerais savoir combien, sur le plan administratif, il y a eu de mouvements. Parce qu'on parle des 160 joueurs. Mais entre les entraîneurs et les administratifs dont on a parlé, puis dont on ne parlait plus, ceux qui arrivaient, ceux qui partaient, on doit être à peu près au même niveau. Et moi je veux bien qu'on me parle du je crois que Valentin nous a encore parlé un peu du domaine financier. Les gars, c'est un peu comme John, quand chaque fois qu'il passait devant la DNCG, le trou se creusait et on me disait que chaque fois ça allait mieux. Le dénommé McCourt, s'il a mis 600 patates sur la table, s'il a mis 600 patates, vous pensez que c'est parce que les finances vont bien?
Ah ben
et,
non.
Et quand et mais c'est tout. Moi je vais et quand vous parlez des actifs des joueurs, il y en a un qui me semble transférable avec un transfert conséquent. Il y en a un. Il n'y en a pas 36, il y en a un. C'est Greenwood.
Tu veux dire un joueur qui a une valeur marchande sur le marché, là?
Dans l'actif, oui.
Oui, c'est mais bon, ils vont te dire que Bacola et Vaz, ils les ont vendus 35 millions, tu vois, les deux. Quoi? Cet hiver.
Bacola
et Vaz, ils les ont vendus 35 millions.
Je te parle dans l'effectif actuel.
Dans l'effectif actuel, oui. Tiens, Valentin, voilà. Tu avais des précisions à apporter sur le domaine
administratif. Oui, puisque Jean-Michel parlait des départs dans l'administratif, quelques noms, alors qu'ils ne vont pas parler au grand public, mais des directeurs administratifs, certains directeurs du football qui étaient adjoints de Longoria qui sont partis, Javier Ribalta, Mathieu Louis-Jean, qui fonctionne très bien maintenant à Lyon, David Friot, bon, il y a Benatia maintenant, et puis Alexandre Mial dans les bureaux, Pedro Irundo, Stéphane Tessier, Cécilia Barantini. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu, comme tu le disais, énormément de turnover. T'as tout retenu, Jean-Michel, tous les noms?
Tessier,
j'ai retenu Laurent Kelly était ciel homme fort du mois de mars 2024. Voilà,
moi, tout ce que je vous dis, c'est que là, vos critiques sont vives, mais il y a eu une longue période sous Longoria où tout le monde était très satisfait de son travail. Hein. C'est plutôt sur ces derniers mois, voire les deux dernières années, que là, tout le monde s'acharne un peu sur lui.
Hein. Donc, j'étais plein d'espoir. Parce que, où voulez-vous qu'il aille prendre plus d'argent?
Il est malin.
Il a fait revenir, ils ont fait revenir du monde 64 000
Jean-Michel,
personnes.
Il est malin. Mais le problème,
il est pas malin.
Il pense être malin et c'est pour ça qu'il s'est offert, si tu veux, un peu de répit dans sa communication avec certains.
Ce qui est terrible, c'est l'image qu'il donne de Marseille.
Oui, mais ça a évité les critiques, Tony. Je sais pas, toi, ton avis, ce que.
C'est-à-dire, Tony.
Mais. En fait, si tu veux, le problème, c'est que Marseille aujourd'hui, avec ses sorties médiatiques et tout, tu vois, ça a été que du négatif en fait. Alors moi, je suis un peu moins critique que vous parce que je pense quand même que l'équipe qu'il est aujourd'hui est pas si vilaine que ça.
Ah oui.
Après, ce qui est dommage, c'est qu'elle est capable de faire des super trucs et que derrière, elle est capable d'aller te perdre à Bruges 3-0 et t'as l'impression qu'elle joue pas, qu'elle fait pas de match.
Derniers matchs importants qu'il y avait à disputer, ils ont pris 3 branlées. Et non, tu me parles d'une équipe, conséquente.
Mais je pense que tout. Non, mais
elle a perdu 11 ou 12-0 les 3 derniers matchs.
Ouais.
Non, mais tout ça est lié par l'instabilité de ce qui se passe en ce moment, de l'entraîneur, pas entraîneur, les dirigeants. Est-ce que ça va être lui? Je pense que toute cette instabilité là, les joueurs, c'est pas possible que tu puisses avoir une équipe qui soit soudée, qui soit. Si déjà la tête du club, tu sais pas vraiment ce qui va se passer.
Regarde, si je me fais un peu l'avocat du diable, Tony, Jean-Michel et Jérôme. Cet hiver, souvenez-vous, il présente le bilan financier de l'Olympique de Marseille au mois de décembre. On lui dit, enfin lui-même dit tout seul, il va falloir qu'on dégraisse l'effectif un petit peu. Ça, c'est une consigne qui est donnée par l'actionnaire.
Pourtant, ça allait bien. Hein
ouais. Parce qu'on n'arrive pas à vendre à l'OM. Ça fait des années.
Benoît, s'il te plaît, arrête de parler comme quelqu'un qui considère que l'argent se trouve sous le pied d'un cheval. Il a dégraissé parce qu'il a, il n'a pas été un bon président, il n'a pas bien géré les affaires. C'est aussi simple que ça.
Ou alors il a dégraissé parce que l'actionnaire lui a dit maintenant il faut récupérer un peu d'argent aussi. C'est comme ça que ça marche, Jean-Michel.
Ah ben parce que tu crois que il a un tonneau sans fin.
Évidemment que non. Et regarde la situation du foot français. Évidemment que tout le monde cherche de l'argent, bien sûr.
Parce que moi, je veux bien que tu me parles de dégraisser. Il a réussi à dégraisser. Ils ont réussi en hiver, tu vois.
Je vous dis pas que tout est idéal, mais je trouve que votre tableau est un peu noir.
C'est noir. Pourquoi?
Parce que déjà,
c'est Marseille. Oui, t'as raison, c'est Marseille. Mais surtout parce que on nous a vendu depuis l'arrivée de De Zerbi du rêve. C'est vrai. T'as pris un cadre avec 9 adjoints.
Le projet sur 3 ans.
C'était Guardiola. Ça y est, enfin la stabilité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. Pablo, Mehdi et De Zerbi. Bon, moins De Zerbi parce que c'est l'entraîneur, c'est lui qui est choisi. Donc forcément, quand tu signes 3 ans, c'est que tu te vois sur un moyen terme, pas à court terme. Ok, contrairement aux autres entraîneurs qu'ils avaient pris, où ils savaient que c'était un one shot et qu'au bout d'un an, les mecs, ils pouvaient leur claquer dans les doigts. Et ce qui a été le cas.
Ce qui s'est passé.
Au bout d'un an, ils se qualifient. Et tout le monde, la plupart là dans Rotten sans flamme, parce que je ne veux pas parler des autres émissions et des autres médias, mais dans Rotten sans flamme, tout le monde est unanime pour dire, en effet, ils ont fait du bon boulot en un an, et enfin, on va trouver un peu de stabilité à ce club. C'est ce qu'ils nous expliquaient fin mai, quand ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Objectif atteint. La preuve, c'est que moi, j'étais pas virulent sur eux. Au contraire, j'allais dans leur sens parce qu'on me l'avait expliqué, parce que j'avais une relation directe avec eux, parce qu'on avait des joueurs. Je demandais pas des passe-droits, mais franchement, il y avait une bonne relation et t'avais envie de croire à leur projet. À l'arrivée, tout a explosé sur l'affaire Rabiot, sur l'instabilité. On a commencé à être critique en disant, mais attends, putain, tu finis deuxième, t'as 13 arrivées, t'as 15 départs. Bon, la stabilité, elle est où? Voilà. Et là, ils nous ont dit, oui, mais l'effectif, il s'est renforcé, on a bien vendu, et ceci, cela. Ok, pas de problème, on vous croit. Ouais, le mois de septembre se passe bien et c'est même étonnant parce que les résultats étaient bons. Et puis, ils dégageaient une force collective nouvelle. Et tu te dis, en très peu de temps, franchement, c'est des cadors, bravo. Moi, j'ai toujours, au fond de moi, été sceptique de ça, comme beaucoup. À l'arrivée, quand ça a commencé à partir en vrille, le fameux trio qui était soi-disant très stable, a commencé à se disloquer, à envoyer des trucs. Et là, le plus gros reproche que j'ai à faire, moi, à Longoria, par rapport à tout ce que tu viens de dire, les mouvements de joueurs. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, Tony. C'est juste gérer vos émotions. En fait, le problème de ces mecs-là, et moi, quand ils sont arrivés, j'ai dit, enfin, il y a des passionnés à des postes clés dans un club. C'est vrai. Mehdi Benatia est un vrai passionné. De Zerbi est plus que passionné. Bon, pour être entraîneur, de toute façon, t'es obligé de l'être. Et Longoria connaît bien le football. À défaut d'y avoir joué, il connaît bien le football. Il est passé par différentes positions dans les clubs. Il connaît bien, et surtout, ils dégagent cette passion-là. Mais ils n'ont pas réussi à la gérer, cette passion-là. Donc, c'est-à-dire que quand les critiques étaient dures, ils appelaient tout le monde en disant « Ouais, mais là, vous êtes dur et tout ça. » Et puis, ils arrivaient à t'enrober le truc et tu les croyais. Et puis, quand ça se passait bien, et ben là, soi-disant, ils montraient les pecs, là, comme ça, tu vois. Ils bombaient le torse et disaient vous avez pu critiquer. Allez. Vous avez vu les résultats quand t'as gagné un match de Ligue des Champions et que t'as cru, après Newcastle, que t'étais déjà qualifié, que t'as vendu du rêve aux supporters parce que tu t'es dit on a accroché le PSG match aller au trophée. Même dernièrement, au mois de janvier, on a accroché le PSG, on devait gagner, on a pleuré dans le vestiaire parce que vraiment, on a même fait mieux que rivaliser avec le champion d'Europe. Vous imaginez l'équipe, la progression et tout le monde s'est dit, surtout à Marseille, tu sais comment c'est un feu de paille là-bas, tu dis ça, bam, ça explose. Tout le monde dit, ah ouais, ça y est, c'est des cadres. Et puis, lieu de garder un peu en soi et de faire profil bas et d'avoir une autre communication, ben non, ils ont bombé le torse ensemble. On est un trio, on est un duo avec Benatia, on est très soudés. Il a même dit, le président, magnifique, et en contrepartie, Longoria a dit, oh mais moi j'ai un des meilleurs directeurs sportifs d'Europe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Mais
c'est ce que je te dis.
Et après, on peut tourner les arguments. Plus.
On peut tourner les arguments dans tous les sens. Je crois, en fait, de mémoire, je sais pas. Je crois que l'an passé, il se qualifie pour la Ligue des Champions en étant à 18 points du Paris Saint-Germain, quelque chose comme ça, oui. Non ? C'est bien 18, enfin, ouais, dans ces environs. Ouais. Là, on est à 12 journées de la fin.
Oui.
Et ils sont à 11 points. 11 points à 11 points du Paris Saint-Germain.
12.
C'est-à-dire que le bilan entre l'an passé et cette année va être à peu près le même. Il y aura à peu près entre 15 et 20 points à la fin du. Et vous considérez qu'il y a eu des progrès de fait, vous? Dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le club, les rapports qu'il y a avec les supporters,
donnons la parole aux supporters, Jean-Michel.
Je t'assure. Michael est là. J'ai l'impression qu'ils étaient au bord du gouffre et que depuis ils ont fait un grand pas en avant.
Salut, voilà. Michael.
Salut, Michael. Bonjour. Bienvenue, Michael. Bon, alors, c'est quoi ton bilan là pour Pablo Longoria?
J'ai essayé de vous appeler la semaine dernière, je vais prendre une minute, si je peux ne pas être coupé.
Ah, mais on va pas te couper, vas-y, la parole, t'as la parole.
Ok, vous êtes en train de faire un bilan sur Longoria, donc sur ses 5 années de présidence.
C'est ça.
Factuellement, c'est 3 podiums, et votre correspondant l'a dit, donc 3 podiums, 2 demi-finales de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, pardon, la C4 et et l'Europa League. Vous étiez où 5 ans avant l'arrivée de Longoria? Vous aviez pas la télé, pas la radio, vous vous souvenez pas du président qu'on a eu avec des petites lunettes? Ça vous dit quelque chose? Qu'il soit pas très bon dans la communication ces derniers temps, je peux l'admettre. Vous parlez du sportif en disant il a pas gagné un trophée. Alors, vous êtes meilleur que moi, vous avez été joueur. Derrière, combien de trophées n'ont pas été gagnés par le PSG sur les 5 dernières années? Combien de clubs? Alors, on va me sortir, ok, il y a eu éventuellement un Rennes.
Oui, c'est vrai. Il y a eu Nantes-Nice en Coupe de France. Il y a eu la grande équipe de Nantes.
Vous me parlez de 160 arrivées. Je vais partir dans une autre hypothèse.
Non, 160 mouvements.
Quoi, ouais, 160 mouvements, pardon. Je vais partir dans une autre hypothèse. Il y a 160 mouvements, mais il gagne 2 titres. Vous jugez comment la présidence de Longoria?
Mais il s'est pas gagné les 2 titres.
Mais
s'il avait gagné 2 titres, il n'y aurait pas eu 160 mouvements.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Moi, je te réponds ça.
D'accord. Bon je suis pas certain d'avoir la même sensation que toi, Jérôme.
Non, moi, mais après
vous parlez de supporters, vous dites on nous a vendu du rêve. Je pense qu'on est quand même malgré tout lucide. Quand vous dites on allume un feu de paille machin, moi je vous écoute tous les jours. tous les jours. Il n'y a pas un débat où vous ne parlez pas de Marseille. Vous êtes critique en permanence.
C'est pas vrai. Critique, non. En ce moment, oui.
Regarde l'actu en ce moment, donc on en parle.
Je disais même à l'antenne à Max, je disais... Là, tu vois, là, il y a Bale, il est même pas arrivé déjà qu'on lui met des bâtons dans les roues. La semaine prochaine, c'est quoi? C'est à la cantine, le cuistot, les haricots verts, ils seront pas bons, en fait, il y a Greenwood qui aura pas...
Mais non, mais on n'a pas parlé de Bale aujourd'hui,
vous
donc...
Vous allez faire un débat? On non, le fera demain. Pas aujourd'hui, mais vous l'avez fait hier ou avant-hier.
Ouais, mais donc, on le fera demain, pourquoi dire... pas.
Mais
ouais,
Mickaël, il y a un peu d'actu à Marseille, quand même.
Non, mais ce qui est important dans sa réflexion... Ce qui est important dans ta réflexion... C'est que justement, nous, si tu veux, nous, on a notre avis. Mais ce qui est important, c'est d'avoir votre avis à vous, les supporters, tu vois. Et c'est important. Ce que tu dis, c'est qu'apparemment, bah, pour toi, le bilan est pas si mauvais que ça. Moi, c'est ce que je disais, c'est que j'avais l'impression qu'il laisse, s'il part aujourd'hui, qu'il laisse une équipe qui est pas si mal que ça, tu vois, qui est quand même, qui peut être capable de faire des super matchs comme au Real, et c'est important d'avoir ton avis à toi parce que justement, nous, on essaye d'être neutre, si tu veux. Moi, je ne suis pas plus critique vis-à-vis de Marseille, de PSG, ni quoi que ce soit. Non, mais... j'ai des clubs de cœur, Lens, bien sûr,
ouais,
tous les clubs dans lesquels je suis passé. Mais le but, nous, ce n'est pas de critiquer Marseille, enfin, en tout cas, le mien. C'est juste d'être...
C'est juste votre travail de donner votre avis sur les sujets d'actualité.
Non, et puis Tony et Jean-Michel pour répondre à Mickaël. En fait, le truc, c'est que bien sûr, vous retenez les critiques de cette année parce que je pense qu'elles sont justifiées. Mais par contre, toutes les belles choses et les bonnes choses qu'on a pu dire tout au long de l'année dernière, parce qu'on en a dit beaucoup quand les résultats étaient bons et qu'il y avait une cohérence. Bah ça, vous l'avez oublié en fait. Mais pour parler des supporters, c'est pas moi et c'est pas Mickaël qui a dû faire les banderoles, mais les banderoles, on les a vues sur le dernier match. Ils n'étaient pas si satisfaits que ça.
Merci à Mickaël qui est venu au 32-16. Jean-Michel, tu voulais dire le mot de la fin, vas-y vite fait.
Non, je disais que Mickaël représente une sensibilité de supporter et il faut qu'on l'écoute. Il a du mérite et il faut le respecter. Mais Mickaël, les dernières réunions des supporters avec la direction de l'Olympique de Marseille, je ne crois pas qu'il y ait eu, que ce soit un ciel azur qui était au-dessus de ces réunions. Il y avait quand même des tensions, Mickaël, tu le reconnais.
Mickaël ?
Oui, mais qu'il y en ait eu, j'entends, mais vous parlez de banderoles, quoi. Vous avez connu Marseille il y a encore 10 ans.
C'est vrai.
Là, si on parle en fait de supporters mécontents, il y a ça encore 4-5 ans, on parlait de Marcelinho et tout, donc là franchement, ok, bien sûr que tu peux avoir un peu de tension, mais par rapport aux dernières années qu'on a vécues, mais c'est rien en fait, il se passe rien quoi.
Mickaël, merci d'être venu au 32-16, tu reviens quand tu veux.
Avec Héro, t'as quand même fait une finale de Coupe d'Europe.
Avec Rudy Garcia à l'époque, en 2018. Ah ouais, dans un instant, le procès d'Olivier Giroud, accusé de faire la net trop. À tout de suite.
Bravo Rudy.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h33 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure avec Tony Vérel, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h. À 18h45, on fera le Allô Jérôme, Benoît avec
Gus. Eh oui, Guillaume Varmuze, le pote de Tony Vérel, les champions de France 98 avec l'URC Lens.
On va chialer.
Voilà, ça y est, ils vont chauffer les deux.
Oh non, c'était les corons.
Exactement.
Je pense que ça y est, ils y croient, les deux. Ça y est, ils se disent c'est bon, c'est l'année.
Voilà. C'est ça.
Ouais. Ah, ils étaient infects, les deux, sur le terrain.
Ah, ça m'étonne pas. Ah ouais. Allez, rendez-vous 18h45, mais parlons d'Olivier Giroud tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
Si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier. C'est juste que son profil est différent. Olivier, il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Donc je pense que c'est un peu malsain. C'est un peu malsain. Ouais, c'est pas en mal gros, ça. Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Giroud. Il n'y a pas de tension.
Il n'y a pas de tension, tranquille.
Le procès de Rotten sans flamme.
Barrage à la Ligue Europa ce soir entre Lille et l'Étoile Rouge de Belgrade, 21h sur RMC. Le début d'année 2026 très compliqué pour les Lillois, 6 défaites et 2 nuls avec une seule victoire dans cette série en 9 rencontres, donc ça va très mal pour Lille. Le symbole de cette période délicate, c'est donc Olivier Giroud. Le bilan de sa saison, 30 matchs disputés, 7 buts, une passe décisive mais 2 buts seulement inscrits depuis le 23 novembre. On ouvre donc son procès ce soir. Giroud accusé de faire l'année de trop. Le procureur, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Deux avocats, messieurs Vérel et Rotten. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et c'est Patrick qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Patrick.
Salut Patrick. Salut.
Bonsoir.
Sois le bienvenu.
Salut Patrick.
Jean-Michel, à toi l'honneur. Pour toi, c'est l'année de trop pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
Oui, je suis un procureur triste mais lucide. Triste parce que c'est un... Je peux continuer.
Bien sûr, tu peux. Vas-y.
Oui. Qu'est-ce qu'on a, triste mais lucide. Triste parce que j'ai beaucoup apprécié Olivier Giroud et que je trouve que sa fin de carrière et son passage à Lille là depuis le début de la saison est plus que compliqué. En tout cas pour moi, effectivement, c'est la saison de trop. Mais il est rattrapé par la réalité. La réalité de ce qu'un avant-centre peut faire et peut ne pas faire. D'autant que Olivier Giroud, partout où il est passé, c'était un petit peu le Claude Puel des grands clubs, puisque partout où il est passé, que ce soit Arsenal, Chelsea, même à l'AC Milan dernière, il n'était jamais titulaire au départ, mais il rendait beaucoup de services et il marquait beaucoup de buts, y compris en équipe de France. Sauf qu'il est parti pendant quelques saisons à Los Angeles, où il était en semi-vacances, et un attaquant de pointe qui perd le haut niveau pendant 2 ans. Non, et le meilleur de nos attaquants de pointe a connu ça lorsqu'il est parti à l'étranger et qu'il est revenu aux Girondins de Bordeaux. Je parle de Jean-Pierre Papin, ne peut plus retrouver les sensations qui étaient les siennes. Et moi, je regrette qu'Olivier Giroud ait voulu...
Sauf que je ne pense pas qu'il est parti en vacances à Los Angeles.
Il n'est peut-être pas parti en vacances, mais il est parti 2 ans. Et deux ans qui entre 38 et 40 compte double. Donc je pense que à ce moment-là, il était déjà en difficulté et qu'il n'a plus les moyens de le faire. Chaque fois qu'il a été remplaçant dans les équipes, il avait toujours les portes de sortie. Et chaque fois qu'on comptait sur lui, il y arrivait. Mmh. Et là, il n'y arrive plus. Donc force est de constater, les statistiques sont là. Et force est de constater que l'on n'a pas aujourd'hui l'Olivier Giroud que l'on avait connu les fois d'avant, même lorsqu'il n'était pas forcément titulaire dans les équipes où il évoluait.
À vous, Monsieur Roten.
Oh ben moi en fait c'est très clair. Moi je tout ce qu'a dit Jean-Michel, je l'entends, il y a pas de souci. Il manquerait plus qu'à l'âge qu'a Olivier Giroud, on dise qu'il est au top de sa forme et au summum de sa carrière. On le savait tous, je veux dire, ça fait même quand il était au Milan AC avant de partir à Los Angeles, on savait que Olivier était sur la fin en équipe de France,
était son avocat, toi ?
était sur la fin au Milan. Non mais je vais t'expliquer pourquoi je suis son avocat. Parce que en fait, l'image qu'a Olivier et la qualité du joueur aujourd'hui, tu vas pas la changer. Olivier, on sait que c'est un buteur. Il a besoin des autres pour être performant. Parce que tous les numéros 9, les attaquants de surface, ont besoin d'avoir autour de lui, autour d'eux, des joueurs capables de leur donner des bons ballons et surtout un collectif bien huilé. Vous l'avez tous vu, la saison de Lille. Elle est très décevante. Elle est décevante pourquoi ? Parce que je pense qu'un entraîneur qui a moins faim qu'à une certaine époque et qui le montre à chaque fois dans sa communication et qui le dit surtout, et ça c'est problématique, que il a pas de solution, que il s'en prend au président parce qu'ils ont pas recruté ce qu'il fallait, parce que les joueurs se blessent, c'est pas nous qui les entraînons les joueurs, c'est lui et son staff. Donc ils sont aussi responsables de toutes les blessures, l'accumulation des matchs, et que quand tu prends Olivier Giroud, tu sais que déjà, il va pas pouvoir faire tous les matchs, ça tu le sais très bien, et je pense que c'était aussi un deal avec lui, que des matchs importants, il peut les jouer, il peut être décisif, il l'a déjà montré sur le début de saison. Donc moi, il y a pas de raison qu'en l'espace de 3 mois, il ait d'un seul coup perdu toutes ses qualités et que le mec, il arrivera plus à l'âge qu'il a marquer des buts. Je pense qu'Olivier Giroud a jusqu'à 45 ans, avec l'hygiène de vie qu'il a, il marquera toujours des buts dans des équipes où il y aura de la créativité autour.
Ouais. Moi,
Je regarde les joueurs qu'il y a autour offensivement. Donc là, ce soir, il va jouer avec Fernandez Pardo sur le côté gauche. Ouais. Excusez-moi de penser que il a 21 ans et qu'il est plus en régression qu'en progression. Que Haraldsson en numéro 10.
C'est la faute des autres.
Je sais pas. Tu regardes les matchs et que Correa sur le côté droit, c'est la même chose. En fait, le problème,
c'est la faute des autres. Il est très
dépendant des joueurs. Le seul qui arrive par moment parce qu'il prend son côté et que Perrault fait quand même une bonne recrue sur le, mais c'est un arrière gauche. Ah ouais. Donc le temps qu'il vienne et qu'il dépose des ballons à Olivier Giroud, bon, à chaque fois, et c'est là que je me dis qu'il est pas carbo et que c'est pas une mauvaise idée de l'avoir pris, c'est que dès qu'il a des ballons dans la surface, et il en a pas beaucoup, bah souvent ça fait une grosse occasion voire but.
L'avis de Tony Gall alors.
Moi, je... Surtout s'il y a penalty.
En plus. Vas-y, Tony.
Et alors, il faut les mettre les pénaltys. Tu t'es bien placé pour le savoir. Et non, mais moi
tu parles à Jérôme là. Non,
j'en ai jamais raté moi. Donc,
à moi aussi. Pas, hein, à moi aussi, j'en ai raté. Hein.
Ah, pas moi.
Non, mais moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on puisse faire un procès sur l'année de trop d'Olivier Giroud. Bah, moi, je trouve que ça, c'est scandaleux. Bah, c'est un joueur qui a tellement de mérite pour gêner, toute la carrière qu'il a eue. Il en a pris plein la gueule.
Ça n'a rien à voir.
Si, justement.
Non,
c'est un mec qui est tellement exemplaire que même s'il mettait pas le nombre de buts qu'il mettait quand il était jeune, parce que là vous lui demandez de mettre le même nombre de buts, tu dis c'est plus l'Olivier Giroud. Mais heureusement qu'à 39 ans, c'est pas l'Olivier Giroud de 20 ans. On l'a tous été, on a tous eu 39 ans et on savait très bien ce qu'on était capable de faire à 39 et à 20 ans.
Il ne fait pas une saison fabuleuse.
Il fait une saison qui.
Je suis triste,
mais non, mais vous vivez, Jean-Michel, je suis pas d'accord avec toi.
Vas-y Tony, parce que
c'est ça. Donc il y a plein de choses où je suis d'accord avec toi. Là, je suis pas du tout d'accord qu'on puisse remettre en cause l'année de trop ou pas. Moi, je suis entraîneur demain de Ligue 1. Je prends tous les jours Olivier Giroud, même l'année prochaine, parce que c'est un mec dans le vestiaire. Il peut t'apporter énormément.
Je veux dire, là, je suis un bon joueur de vestiaire. Voilà,
mais peut-être, mais si vous voulez, mais on verra si un jour j'ai cette chance d'être entraîneur.
Patrick, règle-nous ce procès.
De toute façon, moi,
vas-y.
Non, mais moi, Tony, je termine là-dessus. C'est un joueur exemplaire. Et puis, quand même, il y a quelques stats. Un mec qui a fait 900 matchs au niveau, 350 buts.
Oui, on juge pas la carrière, on juge l'année de trop.
Non. Mais non, mais justement, mais
c'est pas une année de trop
pour quelqu'un. Ça peut pas être une année de trop pour quelqu'un qui est aussi exemplaire.
Bon, vous n'êtes pas assez exigeant alors. Ok.
Mais non, ah, les gars, mais vous êtes fous.
C'est comme si moi, quand je suis parti à Caen, t'aurais dit c'est l'année de trop.
Ah bah oui,
c'est
pas l'année de trop. Ah non, trois mois de trop.
Quand t'es un joueur talentueux, ouais, c'est jamais trop.
Et c'est votre problème, les footballeurs, vous savez pas vous arrêter. La preuve dans les débats.
Mais non, mais c'est
fou. Patrick, règle-moi
ce problème.
Ils ont pas compris mon
exemple. Et quand il est parti aux États-Unis, je peux dire qu'il était pas.
Allez, monsieur le juge, c'est à vous de régler ça. Patrick, vas-y.
Je
vous l'écoute.
Bien sûr qu'il est exemplaire.
Monsieur le juge, il va demander, mais c'est quoi cette haine qu'on a envers les anciens? En fait, on n'est pas assez productif. Allez hop, au goulag direct.
Exactement.
En fait, on a un ancien, il faut qu'il produise autant que quand il avait 20 piges, 30 piges.
Mais ça, c'est pas possible.
Mais non, c'est pas possible. Et vous savez, je suis persuadé que...
Si, moi, j'en suis la preuve.
Jean-Michel, tu laisses parler les juges.
C'est sûr. Monsieur Larquet, vous êtes toujours là, toujours au top. Mais après, je pense qu'il y a des petites différences.
Au top, au top.
Oui, au top.
Au top, il est quand même fatigué. Deux fois dans la semaine, c'est dur.
Ouais, bah apparemment, peut-être qu'il fait l'année trop. Il faut vérifier.
Ouais. Exactement. Est-ce que Jean-Michel Larquet fait l'année trop?
Voilà, on fait ça comme procès demain. Excellent.
Je te rassure. On est en pleine discussion là-dessus.
J'ai fait une passe D, ça vous gérez pour la fin.
Bravo. Bon, Patrick. Tu donnes la victoire à Jérôme et Tony.
Mais je donne carrément la victoire à Jérôme et Tony. Et je suis persuadé
pour
rapidement.
Temps,
mais voilà, je pense pas que Giroud, on l'ait fait venir en se disant il va planter 30 buts par saison. Je pense pas qu'ils disent que Giroud 7 buts, il est en fin de carrière ou autre. Bon. Rappelez-vous, Giroud, il a quand même fait 0 but en Coupe du Monde.
Oui, il est en fin de carrière.
En Coupe du Monde, il fait 0 but. On s'est pas dit il est en fin de carrière. Je pense que Giroud
Hyper productif pour la Coupe du Monde 2018, bon. Même s'il n'a pas marqué.
C'est exactement ce que j'allais
dire. 2018, il y a 8 ans. Et moi, il y a 8 ans, j'étais encore plus enfant.
Mais c'est ce que vous dites. En fait, que Giroud, il est pas là que pour ça. En fait, Giroud, je pense qu'il apporte autre chose, que ça soit pour son placement sur le terrain, parce que finalement, il attire quand même du monde. Mais je pense qu'aussi, il a un rôle de vestiaire. Il n'est pas venu pour être titulaire incondition.
Patrick, merci. Le verdict est rendu. Victoire de Tony et de Jérôme.
Merci, Pat. On l'a écrasé, le dinosaure.
Il y a trop de bienveillance. Ouais. C'est pure Rotten sans
flamme. Et merci pour ma réflexion pour l'année prochaine.
Bon,
surtout.
Bah, allez, dans un instant, on réunit deux légendes du RC Lens, Tony Vérel et Guillaume Varmuz. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme avec Tony Vérel, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Après 19h, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Ah. Et l'Olympique Lyonnais qui est
Piquionnet.
Un Piquionnet.
Piquionnet.
Qui est pas loin de battre le record. T'imagines s'ils battent le record.
Mais les anciens clubs, c'est pas mal, hein,
son Jean-Michel Aulas.
Mais on a fait une spéciale Tony Vérel pour ton retour. Hein. On parle de Lens, on parle de Lyon. Voilà, on va se régaler. Tiens, il y a un sujet sympa à 19h30. Bodø/Glimt, est-ce que c'est fascinant? On en parlera à 19h30, donc le club norvégien qui a battu l'Inter.
C'est fascinant, c'est de jouer sur, dans un petit stade comme ça, sur synthétique.
Ouais, t'as l'impression que c'est un match de foot loisir et pourtant c'est la Ligue des Champions. Et voilà, c'est ça.
C'était le terrain à Meudon, là, à côté de chez moi. J'embrasse mes amis Meudonnais.
Allez.
C'est moins spectaculaire, mais c'est beau quand même.
Filons tous ensemble à Bollard.
RMC, Rotten sans flamme.
Lachor qui s'engage dans la surface. Lachor, le duel qui marque. L'égalisation du Racing Club de Lens. Monsieur Bata qui met le sifflet à sa bouche et qui siffle. Il siffle à la fin du match. Lens est champion de France pour la première fois de son histoire.
Enfin, on a accouché quelque chose dans notre palmarès. Donc préparez-vous parce qu'on va arriver. Et ça va marder.
Allô Jérôme.
Lens leader de Ligue 1, à 12 journées de la fin, un point d'avance sur Paris. Réunion ce soir sur RMC de deux légendes lensoises.
On va chialer.
Tony Vérel, champion de France 98, et son pote de toujours, Guillaume Varmuse, avec nous dans Rotten Sans.
Salut Guillaume.
Bonsoir messieurs.
Ça va Guillaume?
Ouais, super bien, excellent.
Bon,
je suis à Bollard d'ailleurs, juste à côté.
Ah, c'est vrai, excellent.
Écoute, t'as de la chance, il doit faire beau, non?
Ouais, j'ai un temps remarquable. je vois
un grand soleil.
Bon, écoute, Guillaume, t'es avec Tony, il fait le timide, il dit rien, mais bon.
C'est parce que vous l'avez pas lancé en profondeur encore, c'est pour ça.
Il faut toujours le servir, Tony.
Je te rassure.
Et puis moi, je suis toujours dans les dernières minutes, moi. Tu sais,
Guillaume, je te rassure, il prend plus la profondeur. Je l'ai vu encore cet été, encore. Il est plus capable.
N'oublie pas que moi aussi, je t'ai vu encore.
On dit rien.
Bon, les gars,
même si t'as raison, n'oublie pas que je t'ai vu aussi.
Voilà. Est-ce qu'on y croit, Guillaume? Est-ce que c'est l'année du RC Lens? Est-ce que ce titre de champion, on commence à l'envisager quand on est légende du club?
Ouais, j'étais ce matin à l'entraînement. Bon, bah les gars, l'entraîneur surtout. Enfin, tout le monde est dedans. Après, le réel, c'est d'abord Paris. Voilà, le calendrier est plutôt favorable à Paris. Si Paris est Paris, Lens terminera deuxième. Hein, si Paris reste lui-même, si Paris a quelques petits faux pas, si Paris n'est pas Paris en tant que la machine infernale, enfin la machine splendide plutôt qui gagne tout. Si le 12 avril prochain, Paris vient à Bollard avec un point d'avance pour Lens, bon, malgré tout, il y a un dernier match à Lyon pour Lens. Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas dire que Lens ne joue pas le titre, mais voilà, on est comme l'entraîneur Pierre Sage, et il faut voir la proportion concrète de dire que oui, Lens est dans le coup, mais c'est surtout l'ogre Paris Saint-Germain qui est le premier de cordée, j'ai envie de dire, hein. Mais tout le monde est dedans.
Ah, quoi. Ça y est, on y croit alors sur place.
Ce qui est beau cette année aussi, c'est que ils sont toujours en Coupe de France. Contre d'ailleurs un autre club dont
Lyon,
on va parler ce soir.
Lyon,
mais je pense que s'ils arrivent à passer ce tour-là, Lens a peut-être aussi de grandes chances de peut-être gagner le seul trophée qu'ils n'ont pas encore national. Hein.
C'est vrai aussi.
Tu crois au titre de champion d'Antony ou pas?
Vous avez fait des finales.
Oui, il y a eu des finales, quelques-unes. Ouais.
Moi, j'en ai fait deux perdus. Hein,
Jean-Michel, excuse-moi. Jean-Michel, c'est pas la peine de rappeler des mauvais souvenirs à mon ami Dédé Lannoy qui m'a entraîné pendant 10 ans et qui voit encore passer ta reprise de volée en pleine lucarne.
Tu lui donneras le bonjour de ma part.
C'est pas la peine d'en rajouter.
Mais bon, on était. Gus, on était en train de dire que c'était peut-être l'année de trop pour.
Ah ouais, là, Jean-Mi, il a fait ça juste pour se faire mousser, quoi. Il est incroyable.
On était en train de dire que c'était peut-être l'année de trop pour Jean-Mi.
Ah ouais,
Jean-Mi, on a un point commun, on a battu Lens en finale tous les deux.
Et allez.
Et ça continue.
Tony, est-ce que tu crois toi au titre de champion alors?
Oui. Bien sûr que j'y crois, moi. C'est une année qui ressemble un peu à celle qu'on a vécue nous en 98, c'est-à-dire qu'il y avait des gros ogres Marseille et PSG qu'on voyait être champions. Et puis tu avais deux équipes qui payaient pas de mine, tu avais Metz et Lens qui étaient là en outsider et Lens qui était même mieux Metz qui était mieux placé que nous à la trêve, puisque il me semble qu'à l'époque ils devaient être ou premier ou deuxième. Mmh.
Et nous, on était loin derrière. Et puis finalement, bah, on est arrivé, on a terminé la saison en trombe. Et puis on a été champion. Et cette année, je trouve qu'ils ont, sur certains matchs importants, ils ont été là. Ils ont été présents. Ils sont, comme le dit Gus, ils sont pour moi à l'affût du moindre faux pas de Paris. Et c'est sûr que si Paris développe son jeu, si bah, ils ont un tel effectif que c'est difficile de les concurrencer. Mais je pense sincèrement que c'est l'année où jamais.
Oui, mais Tony, à l'arrivée, on dit ça, et Guillaume pareil, on dit ça depuis pas mal de journées. On dit oui, difficile de concurrencer le PSG.
Ouais.
Sauf que là, maintenant, on est à 12 journées de la fin.
Bah, oui.
Donc, ils vont rencontrer une seule fois le PSG. Hein,
pas avec le calendrier, pas facile.
Mais attends. Je ne te dis pas ça. En plus, ils ont l'avantage de recevoir le PSG.
Ouais,
et pour moi, c'est un avantage. Donc déjà, ça veut dire que cette confrontation, t'es pas sûr de la perdre. Donc si déjà tu fais match nul, et pour l'instant, t'es devant. Et, ouais. Et ensuite, Guillaume et Tony, vu la série des Lensois, quand même, c'est impressionnant. Pourquoi penser que d'un seul coup ils vont dégringoler et ils vont perdre 3-4 matchs?
Ah non, mais c'est
pas ce qu'on dit. Moi, si tu veux, Jérôme, je pense pas ça. Je pense pas qu'ils vont dégringoler. Je dis que juste leur calendrier, par exemple, bon, bah, il y a Monaco. Bon, voilà,
ça,
Monaco. Voilà, t'as Monaco. Ensuite, tu dois aller à Lyon la dernière journée. Tu vois, Paris,
sur
le calendrier, ça le premier point. La deuxième chose, c'est que l'équipe de Lens s'est construite rapidement. Je veux dire, si on prend une analogie entre ce qu'on a vécu nous, c'était une construction de 3-4
saisons. Oui, vous étiez à maturité.
Voilà.
Quoi.
Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu sais comme moi que quand on va arriver à la fin, ils vont rencontrer le PSG. Déjà, ça va être un énorme match. Donc c'est un match à pression pour l'instant.
Ouais, il faut le gérer.
La fin de saison à pression, ça aussi, ce sont des détails qui peuvent jouer. La réalité, c'est que si Lens reste ce qu'il est, il peut aller au bout, voilà. Mais il faut qu'il le reste.
Ouais. Non, mais là où je te rejoins, Guillaume, et t'as raison d'insister là-dessus, c'est que quand la pression monte, et la pression, les journées, elles passent, donc si t'es toujours devant ou à la course avec le PSG, forcément, les matchs, les gens, ils vont commencer à dire, oh là là, vous avez pas le refaut, pas, il faut gagner, voilà. Il faut faire tourner, donc c'est pas la même pression qu'aujourd'hui. Et en effet, le manque de vécu, et ça, c'est important, c'est un élément qu'on ne dit pas assez, et c'est bien de le rappeler, Guillaume, c'est que tu tires, et c'est pour ça qu'on en veut à Marseille, de cette instabilité chronique, tu peux pas y arriver dans le football. Et c'est vrai que
pas sur Marseille, bordel.
Non, mais que une vie commune d'un groupe. Tu vois, ce groupe de Lens, par exemple, s'ils arrivent à garder leurs meilleurs éléments l'année prochaine, ils seront. Allez. Ils seront beaucoup plus forts.
Justement, Guillaume, dernière question. Ton point de vue, à toi, la légende gardien de but du RC Lens, sur Robin Risser, qui fait une saison exceptionnelle. Il est dans les petits papiers de Rotten sélectionneur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire?
J'hésite à le prendre dans la sélection. Moi. Ouais.
Est-ce que tu peux convaincre
Jérôme? Non, n'hésite pas. Jérôme, n'hésite pas. En plus, je l'ai vu ce matin.
Ah, le représentant commercial, là-bas.
J'ai dit à Robin que je prenais pas beaucoup. Mais écoute, je voulais dire... Non. Sérieusement, c'est bon. Franchement, un garçon qui est vraiment, travailleur, une personne qui est déjà en train de s'imposer. Il a 20 ans, il arrive, il a pas d'expérience, il est au diapason, il travaille avec Cédric Berthelin. Je veux dire, il est vraiment dans une atmosphère. C'est quelqu'un qui peut aller, qui peut nous amener à un niveau de gardien de but international. Mais c'est comme d'autres jeunes gardiens, il faut pas aller trop vite. Voilà. Il faut le laisser à maturité. Moi, je dis que si Lens est champion, ben parfait. Mais il faut qu'il reste, qu'il continue à travailler. Enfin, il verra, mais voilà. C'est quelqu'un qui peut être en devenir d'un niveau international, réellement, concrètement.
Il faut pas oublier aussi que... qu'à Lens, il y a Jean-Louis Lay qui a fait un travail super. Oui. Je veux dire... Et c'est un gardien aussi. C'est un ancien gardien.
Tout à fait. C'est de la combinaison. C'est-à-dire que de prendre Pierre Sage, ensuite, ils ont pris les joueurs qu'ils voulaient. Jean-Louis a pris, Thauvin. Alors qu'au départ, c'était pas gagné, tout ça.
Et même le Paris Saint-Maximin.
Tous les paris payent pour l'instant.
C'est un symbole, tu vois. Il arrive. Alors, je le connais bien, le petit, parfois, pas facile à comprendre toujours, hein.
Saint-Maximin.
Oui, bon, un garçon adorable, mais bon, dès son premier match, il se sent bien dans cette équipe. Ça veut dire quand même qu'il y a une forme de solidarité, d'altruisme, qui, à mon avis,
peut les amener loin.
Bon, merci à Guillaume Barneuse et le match.
Guillaume, merci Guillaume. Merci et puis encore désolé du pénalty que je t'ai glissé à l'époque.
Mais, ouais, non, mais attends, désolé. Jérôme, t'es parti au poteau. Je vais pas rappeler quand on jouait contre Troyes et Monaco, tout ce que je t'ai arrêté. Je vais pas le rappeler, je te dis quand même.
C'est vrai, c'est pas faux.
Allez,
on t'embrasse, merci.
Tony, toi tu restes, Jean-Michel, Jérôme, parce que dans un instant, on parle de l'Olympique lyonnais. Roten se chauffe, jusqu'où ira l'OM? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.